RFI 4h30 à Paris, 5h30 à Khartoum et à Djouba.
Nemo en piste.
Un enchaînement de succès symbolique cette semaine pour l'armée soudanaise du général Al-Burhan, reprise du palais présidentiel mais aussi de la Banque nationale ou encore du siège du service des renseignements. Alors que le Darfour est toujours en proie aux violences, les FSR auraient tué au moins 45 personnes dans une attaque jeudi. Un pays au bord de la guerre civile, c'est ce que dénonce la diplomatie allemande en parlant du Soudan du Sud. Berlin a provisoirement fermé son ambassade à Djouba et accuse Salva Kiir et Riek Machar de plonger le pays dans une spirale de violence. Les interrogations multiples du directeur du festival Amani de Goma, qui a lieu habituellement en fin d'année. Face à la situation sécuritaire sur place, faut-il le délocaliser, l'annuler pour envoyer un message fort ou le maintenir? La culture doit survivre, nous dit-il. Et puis, la mauvaise opération des Lions de la Teranga hier soir. Le Sénégal tenu en échec 0-0 par le Soudan. On fait le bilan des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 à mi-parcours. L'évolution de la situation au Soudan près de 2 ans désormais après le début de la guerre entre paramilitaires du général Emeti et armée du général Al-Burhan. Cette dernière à l'origine d'avancées significatives cette semaine, notamment à Khartoum avec la reprise du palais présidentiel, mais pas que. Côté FSR, on semble s'être concentré sur le Darfour où une attaque aurait fait au moins 45 morts parmi les civils. Retour sur les événements de cette fin de semaine avec François Mazé.
Les succès symboliques s'enchaînent pour le général Al-Burhan dans la capitale, dévastée par 2 années d'un conflit civil si brutal qu'on ne peut en estimer précisément les pertes humaines. Ce samedi, le porte-parole de l'armée nationale, le général Nabil Abdullah, a annoncé dans un communiqué des progrès ayant mené durant la nuit à la reprise de plusieurs bâtiments de Khartoum, dont la Banque du Soudan, le siège des services de renseignement et le musée national. Ces prises font suite à celles du palais présidentiel, officialisées la veille et accompagnées comme à chaque fois de vidéos triomphantes, diffusées sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, l'armée nationale a pris un ascendant très clair dans la capitale, mais plusieurs quartiers restent entre les mains des FSR de son rival, le général Emeti. Dans le même temps, des combats se poursuivent également au Darfour. Selon des acteurs de la société civile, au moins 45 personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque des paramilitaires contre la ville d'Almala, au nord Darfour. Les paramilitaires qui avaient affirmé avoir encerclé et pris cette ville, faisant plus de 380 morts ennemis.
Situation extrêmement tendue également depuis un peu plus d'1 mois au Soudan du Sud. C'est dans le Haut-Nil, région du nord-est du pays, que la crise a débuté, rappelant la fragilité de l'accord de paix signé en 2018. Mais alors, ces hostilités pourraient-elles déborder sur le reste du territoire, y compris à Djouba? C'est en tout cas l'une des inquiétudes soulevées par certaines chancelleries occidentales. Hier, l'Allemagne a décidé de la fermeture temporaire de son ambassade dans la capitale, et cela malgré les efforts des autorités pour tenter de rassurer Berlin. RFI Djouba, Florence Mieto.
L'annonce a été faite samedi après-midi par le ministère des Affaires étrangères allemand sur le réseau social X. Après des années de paix fragile, le Soudan du Sud est à nouveau au bord de la guerre civile, déplore l'Allemagne, accusant le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar de plonger le pays dans une spirale de violence. L'incertitude face à l'évolution de l'accord de paix au Soudan du Sud avait déjà poussé les États-Unis à annoncer une évacuation de leur personnel non essentiel le dimanche 9 mars. 3 jours plus tard, le ministère des Affaires étrangères sud-soudanais rétorquait que la situation au Soudan du Sud reste calme et sécurisée, évoquant des incidents isolés dans le Haut-Nil. La décision allemande sonne donc comme un revers, suggérant un risque de combat dans la capitale. Une hypothèse pas toujours partagée, même si les tensions persiste. Les proches de Riek Machar sont toujours en détention, accusés d'avoir orchestré les violences dans le Haut-Nil et des bombardements aériens sur les comtés de Nassir et Oulang, bombardements perpétrés par l'armée sud-soudanaise, ont été rapportés par les autorités locales tous les jours depuis le 16 mars. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Un point à présent sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a annoncé s'être retiré de la localité de Walikale Centre dans la province du Nord Kivu. Les rebelles parlent d'une volonté, je cite, de favoriser un climat propice au dialogue. Certains y voient l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de discussion, quand d'autres, plus prudents, estiment que c'est une manœuvre stratégique pour gagner du temps avant peut-être une autre tentative de progression. Hier également, Thérèse Kayikwamba était devant la presse. La chef de la diplomatie congolaise est revenue sur le choix de Kinshasa de directement négocier avec le groupe armé. La RDC a estimé qu'il était opportun de le faire si cela avait des répercussions rapides sur un cessez-le-feu, ajoutant que la priorité des autorités et du président Félix Tshisekedi restait inchangée, à savoir préserver la vie des Congolais. Un contexte sécuritaire toujours tendu qui a des conséquences directes sur la vie quotidienne, sur le monde de la culture également. Cette question ce matin, le festival Amani va-t-il pouvoir se tenir ? Le directeur du grand rendez-vous musical de Goma était à Marseille ce week-end dans le sud de la France à l'occasion du Babel Music XP. Guillaume Bissimois n'a pas caché ses inquiétudes quant à l'avenir de l'événement. Olivier Roger.
En 10 ans d'existence, le festival Amani a relevé de nombreux défis. En 2021, l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma avait entraîné un report de 10 mois. L'an dernier, la mairie avait failli gâcher la fête en interdisant la tenue du festival avant de faire machine arrière. Cette année, avec la guerre, Amani est pour l'instant suspendu. Guillaume Bissimois, directeur du festival.
S'il y a une stabilité au niveau du pays, il est important de remettre la culture au centre de tout et on regarde de près comment les choses évoluent. Mais entre-temps, les équipes ont réfléchi pour que tout de suite, s'il faut rebondir sur un événement assez important et qu'on puisse le mettre en place, quoi.
Tout dépendra donc de la situation sécuritaire à Goma, mais une autre option est sur la table, décentraliser le festival dans une autre ville du pays.
Est-ce que c'est une façon de dire que la culture doit survivre ? Est-ce que ne pas l'organiser, ça serait aussi un message fort en disant que les contextes sont difficiles ? Toutes sont des questions assez profondes de réflexion sur lesquelles il faudrait qu'on s'y mette.
Pour l'heure, Guillaume Bissimois n'a pas la réponse et il ne prendra aucune décision seul. Les partenaires culturels et institutionnels du festival ainsi que les artistes auront, dit-il, leur mot à dire. Olivier Roger, Marseille, RFI.
Il y a environ une semaine, l'administration Trump décidait de couper les financements des médias américains à l'étranger. L'un des principaux canaux concernés, Voice of America, la voix de l'Amérique, suivie par plus de 300 millions de personnes. L'incertitude plane sur ces journalistes. Certains ont déjà reçu leur licenciement, d'autres sont placés en congé administratif. Et surtout, beaucoup sont réduits au silence. Christina Okello a tout de même recueilli quelques témoignages anonymes.
Nous savons que nous allons perdre nos emplois. Mais nous devons rester silencieux. Témoignage amer d'un salarié de VOA placé en congé administratif, un statut qui l'empêche de s'exprimer publiquement. Un ancien cadre décrit des collègues désemparés, tournant en rond, sans savoir de quoi demain sera fait. Certains ont déjà reçu la notification de licenciement, d'autres explorent des recours légaux pour contester cette décision. Car derrière ces suppressions de postes, des familles restées au pays, des prêts en cours et l'angoisse d'un avenir incertain. Mais pour beaucoup, le dilemme reste le même, se taire et subir ou parler au risque de perdre définitivement leur emploi. VOA ne disparaîtra pas complètement, mais sa version future sera drastiquement réduite. La loi américaine interdit une fermeture totale sans l'aval du Congrès, mais selon plusieurs sources, le personnel et les opérations seront réduits au strict minimum. L'entreprise pourrait perdre jusqu'à 90% de ses effectifs, la rendant presque inopérante. Un vide dangereux avertit un salarié qui ne fera que renforcer ceux qui veulent contrôler l'information, selon lui.
Ce dimanche 23 mars, c'est la journée internationale de la langue maternelle qui sonne également la fin de la semaine internationale de la francophonie. C'était l'occasion de mettre en avant la langue française, mais également de penser la façon dont elle transforme d'autres langues parlées dans l'espace francophone. Illustration à Madagascar où les jeunes communiquent de moins en moins dans le malgache de leurs parents ou de leurs grands-parents. En cause notamment l'usage du français comme deuxième langue officielle et première langue d'enseignement depuis la primaire. Résultat, les étudiants sont parfois tiraillés entre l'usage de leur langue maternelle ou de quelques mots de français. Reportage de Pauline Letrouquier à Ancats, grande université publique de la capitale.
Sur l'esplanade du campus, un groupe d'étudiants entame une partie de Fanourne, un jeu de stratégie typique du pays. Au milieu de la conversation, entamée naturellement en malgache, quelques mots de français. Ce langage contemporain, né et diffusé en ville, n'est ni accessible à tous, ni du goût des aînés. Nambine, étudiant de 24 ans.
Ça peut créer des conflits. Par exemple, quand je place des mots en français, il arrive que ma mère se mette en colère car elle ne comprend pas ce que je dis. Et en plus, elle dit que je suis vantard.
On nous prend pour des idiots.
Pour fille, 19 ans, la maîtrise du français est un marqueur social important, source de pression pour sa génération.
Ils se prennent pour des leaders. quand ils parlent français et quand on parle malgache, ils disent qu'ils ne sortent pas de leur zone de communauté et tout ça.
Le français résonne pourtant peu, en dehors des salles de classe, dans l'intimité des foyers. Cette place unique qui lui est réservée à l'école pose question au professeur Jeannot-Fils Ranaïvousson. Pour cet enseignant de la filière malgache à Enquête, le système crée des déracinés linguistiques.
On enseigne dans une langue que les gens ne maîtrisent plus. Donc c'est une question d'efficacité. Que ce soit dans les efforts de développement, dans l'enseignement, il faut qu'on se parle avec la langue que tout le monde comprend, le malgache en fait.
Au-delà d'un impératif fonctionnel, une élite intellectuelle tananarivienne milite pour redonner toute sa place au malgache, qui reste selon elle un marqueur de souveraineté nationale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Allez, du sport et du football pour refermer la première partie de cette demi-heure. Hier, on jouait la fin de la 5e des 10 journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Avec le match nul et vierge entre le Soudan et le Sénégal, une bien mauvaise affaire pour les Lions de la Teranga. Eric Mamrut.
Malgré 19 frappes au but, les hommes de Pape Thio n'ont pas réussi à faire sauter le verrou soudanais. Conséquence, le Soudan conserve sa place de leader du groupe B, tandis que le Sénégal rétrograde à la 3e place, dépassé désormais par la RD Congo. Ces trois formations se tenant en deux petits points. Derrière, le trou est fait puisque le Togo, accroché ce samedi par la Mauritanie de but partout, est 4e à 5 longueurs du Sénégal. À mi-parcours de ces éliminatoires, le chemin vers le mondial est encore long, mais l'Égypte, première du groupe A avec 5 points d'avance sur le Burkina Faso, s'en est rapprochée un peu plus. Tombeur du Niger, le Maroc se balade également dans le groupe E. Autre équipe invaincue est bien partie, la Tunisie en tête du groupe H. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire compte elle aussi 13 points sur 15 possibles, mais le Gabon la talonne d'une petite longueur. Dans le groupe G, la Guinée, incapable de battre la Somalie, est désormais distancée de 5 points par les deux leaders, l'Algérie et le Mozambique. En s'imposant à l'extérieur, le Nigeria et le Mali se sont relancés, mais restent à 4 points du leader de leur groupe respectif, l'Afrique du Sud et le Ghana. Enfin, comme le Sénégal, le Cameroun a réalisé une mauvaise opération. Accroché par Eswatini, les autres Lions ont perdu la tête de leur groupe au profit du Cap-Vert.
Eric Mamrut, et la 6e journée débute dès ce dimanche avec les matchs Eswatini-Maurice et Kenya-Gabon. Il est 4h42 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre vos rendez-vous habituels du dimanche, on retrouve Denise Epoté pour ses deux têtes d'affiche. Le livre international Pologne, histoire d'une ambition du diplomate Pierre Buller, ancien ambassadeur à Varsovie. Et puis notre reportage culture à la découverte d'une exposition au centre Pompidou-Metz. Ça s'appelle Après la fin, carte pour un autre avenir. On vous y invite dans une dizaine de minutes. Avant cela, le reportage du jour. À Berberati, dans le sud-ouest de la République centrafricaine, pour le 3e et dernier épisode de notre série consacrée au quotidien de cette localité, ses habitants aiment se rendre à la Batouri, cette rivière située à environ 5 km. On vient s'y divertir, nager, danser, écouter de la musique, y faire des rencontres et parfois un petit peu d'argent aussi. Reportage Rolf-Steph Domialeux.
La Batouri, une rivière nichée au pied de deux collines à l'entrée de Berberati. Avec ses eaux grises, son sable doré et sa végétation verdoyante, elle offre des expériences inoubliables. Le spectacle est à couper le souffle depuis le pont métallique qui permet le passage des véhicules. Kelly Mermoz aime regarder l'eau qui coule.
La Batouri est toujours calme et resplendissante. Son paysage qui est si naturel me donne toujours l'envie d'y plonger. C'est un véritable trésor pour se détendre après une semaine remplie d'activités. J'aime sa tranquillité, j'ai l'impression que ça améliore ma vie.
Entourée de rochers, de palmiers et d'une forêt dense, cette rivière fait partie de la culture et de l'histoire de Berberati. Âgée d'une cinquantaine d'années, Saturnin y pratique la pêche depuis de nombreuses années.
La pêche est rentable dans notre partie de la rivière. Comme vous voyez, elle n'est pas polluée. Les clients achètent nos poissons et les font griller sur place pour les manger. J'adore cette ambiance qui me permet de gagner de l'argent.
Dans une ambiance très conviviale, certains sont allongés sur des nattes, d'autres assis sur des bancs ou des rochers. Carole passe la journée avec ses amis en sirotant le vin de palme appelé Kangoya.
La visite de Batouri est toujours une expérience mémorable pour moi. Je vais continuer à siroter mon vin de palme sans regarder la montre. Cette rivière offre toujours des couchers de soleil magnifiques, ce qui vaut vraiment la peine de rester jusqu'à la fin de la journée pour finir en beauté.
Certaines allées sont créées entre les rochers pour descendre vers la rivière, d'autres pour remonter vers les lieux de commerce et l'aire de jeu. Après une semaine bien chargée, Ludovic a emmené ses deux filles, Sofia et Katia, pour se détendre.
Je me suis déjà baigné, donc je profite de la sérénité environnante, en observant les oiseaux et en respirant l'air pur. Le doux bruit de la nature berce nos pensées. Mes enfants aiment cette ambiance pour être en contact direct avec la nature et pour s'amuser.
Depuis plusieurs décennies, Batory est une destination de choix pour ceux en quête d'évasion et de souvenirs inoubliables. Rolf Esteve Doumialle, de retour de Berberati, RFI.
Et les trois épisodes de cette série consacrée au quotidien de Berberati sont à retrouver dès maintenant sur les plateformes d'écoute de RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les principaux titres de ce dimanche 23 mars 2025. Quatrième nuit de mobilisation en Turquie en soutien au maire d'Istanbul. Des milliers de personnes réunies devant la mairie et le palais de justice, faisant à chaque fois face à des centaines de policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Le maire, Ekrem İmamoğlu, a lui comparu hier devant un tribunal pour la première fois depuis son arrestation mercredi pour des accusations de corruption et de soutien au terrorisme qu'il conteste vivement. Le gouvernement israélien doit examiner ce dimanche un projet de destitution de la procureure de l'État, et ce en plein bras de fer autour du limogeage du chef du Shin Bet. Le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid appelle à une grève générale si le Premier ministre refuse de tenir compte de l'avis de la Cour suprême, gelant la décision du gouvernement de renvoyer le chef de la sécurité intérieure. Et puis on a des nouvelles du pape François, des nouvelles rassurantes. Le souverain pontife va quitter l'hôpital ce dimanche. Il va se reposer pendant 2 mois. François qui devrait d'abord saluer les fidèles depuis le balcon de l'hôpital. Enfin en France, plus de 90 000 personnes et une centaine de cortèges selon le ministère de l'Intérieur hier réunis contre le racisme et l'extrême droite. Vous en avez l'habitude en fin de semaine. Les deux têtes d'affiche de Denise Epoté, elle est au micro de Simon Bourtembourg.
Bonjour Denise.
Bonjour Simon.
Aujourd'hui, c'est un duo béninois qui occupe la première place de votre podium. Lucien Medjiko possède un bachelor en sécurité informatique et une spécialisation en cybersécurité obtenue à l'université Abomey-Calavi. Son compère est lui ingénieur agronome, Ulrich Dido. Il prépare une thèse en agroécologie. Il est de son côté spécialiste des chaînes de valeur de l'ananas, du riz et des cultures maraîchères. Eh bien Denise, à eux deux, ils ont donc créé BioLife Tech, et ce pour accompagner les petits agriculteurs.
Nourris par leurs histoires familiales, c'est en 2020, sur les bancs de l'université, que naît l'aventure BioLife Tech pour Ulrich Dido et Lucien Medjiko. Les deux amis décident alors de concevoir une solution technologique pour faciliter l'accès des petits agriculteurs de fruits et légumes au marché d'exportation, améliorer leurs revenus et surtout réduire les pertes post-récolte. Ipine A est le nom de la plateforme car le produit phare est l'ananas. Le fameux pain de sucre qui, à l'international, a acquis ses 5 étoiles. Une fois inscrit sur la plateforme et après avoir sélectionné le marché qui l'intéresse, l'agriculteur obtient un itinéraire personnalisé qui lui permet de répondre aux exigences des acheteurs locaux et internationaux. Le respect des bonnes pratiques a permis aux 1800 agriculteurs inscrits d'augmenter leurs revenus de 20%. Aux acheteurs, Ipine A garantit la traçabilité de la production et la disponibilité des stocks pour mieux planifier les commandes. Plusieurs fois primé pour cette innovation qui renforce la compétitivité et stimule le développement économique en créant des emplois locaux, Ulrich Dido et Lucien Medjiko ont été lauréats de l'hackathon AgriHack organisé par l'International Trade Center.
Et votre seconde tête d'affiche, Denise, est originaire du Congo-Brazzaville. Vital Zaka, un inventeur et chimiste reconnu. Son pseudonyme, son surnom, Vital Vitium, c'est aussi le nom de l'innovation qu'il a mise au point. Le chimiste congolais mène des recherches dans le domaine des énergies renouvelables, un domaine, Denise, qui est selon lui essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique.
Atteindre une neutralité carbone ambitieuse, comme il l'a défini, c'est l'objectif que vise Vital Vitium, qui depuis le primaire est passionné par les expériences scientifiques, menées à partir de plantes, car elles sont, affirme-t-il, une source d'énergie depuis la nuit des temps. Son fruit fétiche est le citron, qui contient plusieurs composés chimiques. Le vitium qu'il extrait, placé sous les racines d'un arbre ou d'une plante, produit du courant continu, converti ensuite par un transformateur en courant alternatif de 220 volts. La pile manioc, nommée pile biologique, solution peu coûteuse, pourrait également fournir de l'énergie à plusieurs ménages. Pour l'heure, grâce au PNUD, 3 maisons test sont alimentées par cette énergie verte. Avec le concours du ministère congolais de l'énergie, 400 maisons dans le village de Dimoneka devraient bénéficier de cette technologie respectueuse de l'environnement et de la santé. En 2021, la pile a été brevetée au Grand-Duché du Luxembourg. Si les recherches de Vital Vitium suscitent l'intérêt de plusieurs pays, pour l'heure, ils peinent à les financer pour les rendre accessibles. À l'horizon 2030, il espère que les énergies renouvelables dans son Congo natal représenteront 35% de la consommation brute en énergie.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté. Merci Denise et bonne journée.
Et comme chaque dimanche, on vous présente un ouvrage en lien avec l'actualité internationale. Aujourd'hui, zoom sur la Pologne, qui assure en ce moment la présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne. Varsovie, qui dans le contexte de la guerre en Ukraine, investit massivement dans les infrastructures et l'armement, la formation civile et militaire à la défense également. Dans son dernier ouvrage, Pologne, histoire d'une ambition, le diplomate Pierre Buller, ancien ambassadeur à Varsovie, plonge dans le passé pour expliquer comment ce pays se retrouve aujourd'hui, au centre du jeu. C'est notre livre international cette semaine. Il est avec Juliette Gerbrand.
Bonjour Pierre Buller.
Bonjour.
Comprendre le moment polonais, c'est le sous-titre de votre livre. Et avant de détailler ce qu'est ce moment, je voulais vous demander s'il était pour vous le signe d'un déplacement du barycentre de l'Union européenne vers l'Est, comme on dit souvent.
La Pologne se retrouve aujourd'hui dans une sorte de centre de gravité de la principale question qui agite l'Union européenne, qui est la question de la sécurité. Elle se pose en leader quasiment des pays de la ligne de front. Ce sont les pays baltes, la Finlande et les Nordiques aussi, qui comprennent que la menace russe est véritablement existentielle. Et pour ses États, mais aussi pour l'Union européenne. Déjà, elle a un voisinage géographique avec la Russie, elle a une frontière avec la Russie, et la Biélorussie, qui est un État vassal de la Russie, ainsi qu'avec l'Ukraine. Il se trouve que la Pologne a une longue histoire avec la Russie. Elle a été occupée par ce pays dans ses différentes incarnations, tsariste ou soviétique, pendant 170 ans. Ça laisse des traces dans les mémoires, dans la chair Pologne. Et elle considère qu'elle a aussi un rôle d'alerte face aux menées du Kremlin vis-à-vis des pays plus à l'ouest de l'Europe qui sont beaucoup moins sensibles à cette menace ou qui l'ont souvent sous-estimée. Les Polonais ont vraiment sonné l'alerte depuis des décennies et peuvent dire aujourd'hui, ben voilà, nous vous l'avions dit.
Dans le livre, vous expliquez comment la Pologne a régulièrement été un rempart contre des invasions pour l'Europe.
En effet, puisque dès le XIIIe siècle, la Pologne était envahie par les Mongols, par la Horde d'Or. Les siècles suivants, la Pologne a fait barrage aux armées ottomane, a mis en déroute même les armées ottomanes qui assiégeaient Vienne. Et puis, en 1920, l'armée rouge était sur le point de déferler sur l'Allemagne. Elle voulait passer sur le cadavre de la Pologne, c'était les termes utilisés. La Pologne a fait barrage, et là aussi, c'est peu connu en France, mais elle considère qu'elle a sauvé l'Europe des assauts des bolcheviques, fondamentalement. Et donc, à chaque fois, elle s'est vue comme, au fond, ce rempart qui absorbe le premier choc des assauts de l'Est.
Et aujourd'hui, la Pologne est une clé de voûte, militairement notamment.
Avant Donald Tusk, le parti droit et justice, prenant conscience de ce risque, avait décidé de doubler pratiquement les dépenses militaires. La Pologne donc est passée en l'espace de 2 ans de 2% à 4% du produit intérieur brut, c'est colossal, et en 2025, le niveau devrait être de 4,7% du produit intérieur brut, et avec la moitié de ces dépenses de défense consacrées à de l'acquisition d'armement et d'équipement, ce qui est beaucoup plus que ce qui est recommandé par l'OTAN. Et elle considère que ce n'est qu'en s'armant qu'on peut se préparer à toutes les éventualités. Et donc la Pologne se retrouve pratiquement aujourd'hui avec une armée de 200 000 hommes, c'est-à-dire l'équivalent de la France, plus que l'Allemagne. C'est le troisième budget militaire de l'Union européenne, avant même l'Italie.
Ce moment polonais, pour y revenir, c'est aussi celui du retour de Donald Tusk au pouvoir. Simplement, le pays reste très divisé. Ce changement de gouvernement à Varsovie, vous le voyez comme un signe d'espoir ou vous redoutez sa fragilité ?
Je dirais que nous sommes dans une situation assez très fluide, très liquide. Nous avons une tornade de l'autre côté de l'Atlantique, un personnage qui s'appelle Trump, qui manie quand même des thématiques qui ont une résonance, notamment dans les formations nationales populistes, partout en Europe, hein, pas seulement en Pologne, qui se sentent au fond confirmés dans leurs convictions et dans leurs choix. Bon, nous sommes encore à 2 ans et demi des prochaines élections législatives. Il y a une élection quand même, il y a une élection présidentielle le 18 mai en Pologne. Le président a peu de pouvoir, mais il a un pouvoir de veto. Il se trouve qu'aujourd'hui, le candidat de la coalition est très devant le candidat du Parti Droit et Justice. Mais très difficile de dire, et pas seulement en Pologne, ailleurs aussi, très difficile de dire ce qui va se passer. C'est comme un kaléidoscope, vous voyez, on tourne un petit peu et ça change complètement le paysage.
Merci Pierre Buller. Votre livre « Pologne, histoire d'une ambition » est publié aux éditions Talendier.
Pierre Buller au micro de Juliette Gerbrandt. 4h56 ici à Paris, la fin de cette demi-heure à la découverte d'une exposition qui invite à avoir une autre vision du temps et de l'espace au-delà de la pensée occidentale et coloniale. Une quarantaine d'artistes exposent pour Après la fin, carte pour un autre avenir et puisent dans des philosophies marginalisées pour mettre en avant une terre unie et non morcelée avec des frontières. Ça se passe au centre Pompidou-Metz et Muriel Mahalouf est allée y faire un tour.
Un film montrant une danse de l'escargot du mouvement zapatiste ouvre le parcours et donne le ton de l'exposition. Manuel Borja-Villel, commissaire.
Escargot, c'est ainsi qu'ils appellent leur ville. Ce qu'ils proposent donc, c'est une autre forme de connaissance et de gouvernance.
Ainsi, l'escargot ou la spirale constitue la scénographie de l'exposition. Dans la spirale, le passé et le futur sont liés, les lieux également. Une quarantaine d'artistes des Caraïbes et de la Méditerranée proposent ainsi leur vision utopiste à l'encontre du système libéral hégémonique et du colonialisme créateur de frontières. Chiara Parisi, directrice du centre Pompidou-Metz.
Il a conçu la scénographie comme un 8, donc avec des cercles qui séparent, des mondes. Donc il commence avec la sphère, on peut dire, latino-américaine, donc Brésil, Cuba, les Caraïbes français. Et l'autre partie de l'8, l'autre partie du cercle, c'est la Palestine et les autres territoires, donc la Méditerranée.
Dans ce 8 cohabitent des artistes diasporiques, comme ils sont nommés dans l'exposition, pour qui la frontière n'est pas qu'une limite, mais un carrefour.
Les rapports, c'est un rapport de souffrance, de combat, mais aussi de beaucoup de poésie et de force, d'optimisme et des possibilités de régénérer notre regard aujourd'hui. Ces artistes-là, parce qu'ils sont là depuis toujours, hein, sont là depuis des siècles, on a même des figures, par exemple, comme Wilfred Lam, qui est un des plus grands artistes du surréalisme. Et ta nouvelle génération, qui parle donc des mêmes questionnements, ça veut dire qu'on peut vivre dans un monde collectif sans qu'il y ait une hégémonie culturelle d'un peuple sur un autre.
Ainsi, l'artiste palestinienne Ahlam Chebli présente dans Occupation une série de photos prises durant 2 ans dans sa ville d'Al-Khalil à Hébron et rendant compte des traces de la colonisation israélienne sur l'architecture. Murs, clôtures, barbelés, caméras autour des maisons palestiniennes dominées par les immeubles flambant neufs des colons. En écho, le collectif marocain Tizine Tizoua présente un film sur les traces du peuple amazigh aux îles Canaries qui aurait été massacré au XIVe siècle et dont il reste le style beau, un langage de sifflet. Olivier Marbeuf propose lui une magistrale fresque sonore et une sorte de cartographie réparatrice des effets de la colonisation et dominée par le bleu de la mer. Des œuvres et une exposition puissante.
Moi. J'ai toutes les histoires du pays dans la tête, tu sais. C'est peut-être trop d'histoires, hein, c'est vrai. Une migraine d'histoires que personne ne veut entendre.
Et c'est avec le reportage culture de Muriel Mahalouf que se referme cette demi-heure, cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Pauline Berthélémy à la réalisation, à Vincent Dublange, à la rédaction en chef dans une petite minute sur RFI, le retour de l'actualité internationale avec le journal de Martin Gazil. Sera 4h en temps universel.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, en partenariat avec RFI, le Babel Music XP convie le monde à Marseille, dans le sud de la France, et BPM vous y emmène.
Bonne pulsation du monde, c'est tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.